est notre invité ce matin dans le 8-30, un nouveau candidat pour les législatives direction la première circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, Romaric Giacomino, bonjour.
Bonjour Cyril.
Vous êtes chargé de mission pour Debout la France dans les Alpes-de-Haute-Provence et donc candidat pour votre parti sur cette première circonscription. Vous êtes candidat alors qu'au départ ce n'est pas vous qui aviez été choisi par votre parti. Là, ça aurait pu donner lieu à un parachutage.
Tout à fait. À l'origine, j'avais pas souhaité être candidat parce que une campagne électorale coûte cher quand même et que je viens d'acheter ma maison. Et voyant que la solution, c'était un parachutage, j'ai refusé ce parachutage, clairement, et j'ai demandé à ce qu'on retire la candidate parachutée pour me donner l'investiture, ce que Nicolas Dupont-Aignan a accepté dès le moment où je lui ai demandé.
Vous avez un passé au sein de Les Républicains. On se souvient, vous aviez été secrétaire départemental pendant plusieurs années, hein, secrétaire départemental adjoint, pardon, entre 2015 et 2021. En fait, ça fait très peu de temps que vous avez quitté le parti. Est-ce que vous reconnaissez votre ancien parti aujourd'hui quand il ne présente aucun candidat pour ces législatives? Est-ce que vous reconnaissez votre parti aujourd'hui quand certains élus locaux, comme Daniel Spagnou, maire de Sisteron, ou même Camille Galthié, maire de Manosque, qui a très souvent été critique avec Christophe Castaner, appelle à le soutenir aujourd'hui?
Non, je ne reconnais plus ce parti. Les Républicains étaient la première force politique en termes de militants sur le département. Voir qu'ils n'ont pas de candidat me sidère un peu. Et ce qui me choque le plus, même si ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à quitter les Républicains à l'époque, c'est de voir que finalement, petit à petit, les élus et les cadres du département partent soutenir les élus En Marche.
Mais c'est quoi, selon vous? C'est qu'il y a un intérêt politique derrière ou c'est que La République En Marche est plus du côté de la droite centriste?
Alors, La République En Marche est plutôt de centre-droit aujourd'hui, contrairement à ce qu'avait voulu faire croire Emmanuel Macron en 2017. Donc la frange centriste des Républicains a eu tendance à se tourner vers En Marche, surtout au vu des problèmes ces dernières années pour trouver un vrai leader à droite, en fait.
Est-ce que Renaud Muselier n'aurait pas un petit peu savonné la planche du côté des Républicains en annonçant qu'il quittait le parti et au final, quelques mois plus tard, appelé à voter pour Emmanuel Macron? Est-ce qu'au niveau régional, Renaud Muselier n'a pas fait du mal à son ancien parti, sans pour autant prendre la carte La République En Marche?
Je pense que le problème de Renaud Muselier, c'est pas qu'il a savonné la planche, c'est qu'on lui a laissé savonner la planche. Lorsqu'au régional, il annonce un accord avec La République En Marche, on aurait dû immédiatement l'éjecter du parti et mettre notre candidat à sa place, avec une ligne claire, on est Les Républicains, on n'est pas En Marche. Quand on est dans un parti d'opposition, on ne fait pas alliance avec la majorité.
Ça vous aurait retenu, vous, dans votre parti?
Ça aurait pesé dans mon choix, oui.
Où se situe aujourd'hui Debout la France? Parce que vous êtes candidat sur cette première circonscription. Il y aura aussi des candidats à Rassemblement National et Reconquête. Alors, Debout la France, entre ces deux partis, vous vous situez où?
Debout la France se situe entre les Républicains et le Front National. On n'est pas autant à droite que le Front National. On n'est pas autant centriste que les Républicains aujourd'hui.
Et par rapport à Reconquête?
Reconquête, à titre personnel, je les trouve plus à droite que le Rassemblement National sur pas mal de sujets.
Mais vous comprenez aujourd'hui qu'il y a un éclatement des voix de droite, d'extrême droite, aujourd'hui?
À Debout la France, on le regrette, je le regrette personnellement, d'autant plus que dès l'année dernière, il avait été fait un appel à faire une grande primaire de toute la droite souverainiste, patriote, pour essayer d'avoir une seule candidature commune aux élections présidentielles. Cet appel a été rejeté par des candidats qui aujourd'hui demandent une union des droites. Donc oui, forcément, je regrette cet éclatement, mais je pense que l'union des droites se fera lorsque la droite classique aura fini d'être exposée par Emmanuel Macron.
Enfin, on sait ce que ça donne, ces envies d'union. Hein. La gauche a essayé de s'unir. Pour les présidentielles, ça a été un échec jusqu'au moment où il y a eu ces législatives et le constat d'un parti communiste, d'un parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts qui était à la traîne face à la France Insoumise. Et au final, aujourd'hui, ça donne la NUPES.
C'est ce que l'on constate de toute façon dans l'histoire de France, de la Ve République. À chaque fois qu'il y a eu des coalitions, que ce soit à droite, à gauche, ça s'est toujours fait dans des contextes où l'élection allait être difficile et où la nécessité de faire accord était indispensable pour ne pas disparaître. Mmh. La NUPES, aujourd'hui, si elle ne fait pas d'accord à gauche, il n'y a aucun parti de gauche quasiment qui aurait un groupe viable à l'Assemblée nationale. À droite, ça va être malheureusement la même chose.
Et vous, qu'est-ce qui vous empêche de faire une union de droite aujourd'hui sur votre circonscription? Vous le dites, hein, quand c'est compliqué au niveau politique, on fait une union. Oui, mais alors pour vous, ça va être très compliqué. On rappelle les résultats pour les présidentielles de Nicolas Dupont-Aignan dans les Alpes-de-Haute-Provence, 2,59%, moins que le Parti communiste, oh, moins oui, qu'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi ne pas faire l'union aujourd'hui des droites, celle que vous désirez?
Ça va être très compliqué. On a commencé à échanger avec les candidats d'autres partis de droite.
Vous préparez le second tour, en fait?
Bien sûr, on prépare le second tour.
Donc c'est une candidature pour la forme?
Alors non, chacun espère bien être présent au second tour. Par contre, on est conscient qu'à un moment donné, il n'y aura pas deux candidats de droite au second tour, comme il n'y aura pas deux candidats de gauche au second tour.
Donc vous discutez avec qui aujourd'hui? Reconquête et le Rassemblement National?
Reconquête et le Rassemblement National, oui. Qui m'ont demandé... S'ils étaient au second tour, si je les soutiendrais, j'aurais dit que si j'étais au second tour, je comptais bien avoir leur soutien, et que si on est au second tour, même quel que soit le candidat, je dirais, au-delà de Reconquête et du Front National ou de Debout la France, face au candidat En Marche, s'il est au second tour, on ne pourra pas appeler à voter pour le candidat En Marche. Donc il faudra bien...
Donc vous soutiendrez...
Au moins s'accorder sur certaines choses pour...
Vous pourriez soutenir Rassemblement National au second tour?
Je pourrais voter pour le Rassemblement National au second tour. Maintenant, pour avoir un soutien, il faudra qu'ils amendent certains points de leur projet.
Vous pourriez donc voter pour Christian Girard, vous qui aviez dénoncé le parachutage dans votre parti. Vous pourriez voter pour un Manosquin que l'on a placé sur la première circonscription des Alpes-de-Provence parce qu'elle est prenable, et je cite notre invité la semaine dernière du Rassemblement National de la Drôme, puisqu'il est suppléant de la candidate de la seconde circonscription du Rassemblement National, parce que là, on l'envoie au casse-pipe, tout simplement parce qu'en face, il y a Léo Valter et Christophe Castaner.
Alors, j'aurais beaucoup moins de scrupules à voter pour Christian Girard en tant que parachuté, entre guillemets,
que pour Aurélie Abeille.
Lorsqu'on est député de la première circonscription ou de la deuxième circonscription, on est député des Alpes-de-Haute-Provence. Passer de Manosque à la première circonscription, c'est une traversée de la Durance. C'est pas un parachutage qui vient de l'autre bout de la France.
Non, mais c'est un calcul politique quand même. Et les électeurs aujourd'hui sont de moins en moins friands en calcul politique.
Oui. Voilà. Pour moi, on est député des Alpes-de-Haute-Provence et pour être député des Alpes-de-Haute-Provence, il faut être basaltin.
Alors, député des Alpes-de-Haute-Provence, l'un des gros sujets aujourd'hui, ce sont les urgences de Manosque. Il y a cet appel à la mobilisation. Ce matin, à 10h, une quarantaine de nuits de fermeture depuis le début de l'année, faute de médecins urgentistes. Il y a des inquiétudes par rapport à cet été, puisqu'il y aura moins de médecins libéraux, il y aura moins de lits également dans l'hôpital. Oui, mais que peut y faire un député?
Alors, un député, malheureusement, à court terme, il ne peut pas y faire grand-chose. Lorsqu'on est député, on vote des lois, malheureusement on ne dirige pas des hôpitaux et on ne forme pas des médecins. Surtout qu'un médecin, ça prend quand même pas mal d'années à être formé. Donc la première des choses que l'on doit faire aujourd'hui, c'est déjà de réintégrer nos soignants suspendus. Ils sont pas très nombreux, certes, mais c'est toujours des bras qui seront utiles à l'hôpital et qui seront mieux à l'hôpital qu'à rester chez eux.
Oui, ça règle quand même pas le principal problème. Le numerus clausus est aujourd'hui supprimé.
On a un deuxième problème. Aujourd'hui, entre 20 et 30%, d'après l'ordre des médecins, des étudiants qui finissent leurs études de médecine ne viennent pas exercer en tant que médecin. C'est bien que le métier de médecin, notamment à l'hôpital, n'attire plus grand monde. Une fois les études finies, on s'aperçoit que le salaire que l'on a ne correspond pas à l'investissement que l'on met. Donc, si on veut réattirer ces personnes-là qui sont opérationnelles, puisqu'elles ont été formées, il faut proposer des salaires qui leur permettent de trouver un accord entre le travail qu'ils fournissent et les bénéfices qu'ils en retirent à titre personnel.
Bon, aujourd'hui, c'est tout le corps soignant quand même qui se sent déconsidéré au niveau salarial.
Oui, c'est tout le corps soignant qui a ce problème-là. Et ensuite, le numerus clausus qui est devenu numerus apertus avec les dernières réformes, bien sûr qu'il faut l'augmenter. On ne peut pas continuer à avoir de moins en moins de médecins et en former un nombre limité, et avoir certains de nos élèves en médecine qui ne peuvent plus redoubler leur première année maintenant, partir à l'étranger, se faire former, pour pas toujours revenir chez nous d'ailleurs.
Alors, dans l'un des gros points, l'un des grands points de votre programme, c'est la souveraineté au peuple, redonner aux Français le pouvoir de décider. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mesure doit être votée en RIC, en référendum d'initiative citoyenne?
Non, pas chaque mesure, mais il y a des sujets sur lesquels je pense qu'il est indispensable que les Français puissent se prononcer sur ce qu'ils veulent localement.
Lesquels?
Par exemple, sur la fermeture d'une classe, il faudrait que impérativement, alors soit les habitants, soit le conseil municipal, aient son mot à dire, aient un droit de veto sur la fermeture d'une classe.
On oui, et quand on vous dit exemple, oui, mais il y a des effectifs qui se réduisent, le droit de veto arrive et donc du coup on reste ouvert.
On voit le cas à Péruy. On leur a dit l'année dernière, les effectifs se réduisent, on vous ferme une classe. S'ils remontent, promis, on vous rouvre une classe. Cette année, les effectifs remontent. On leur a dit non, fin de non-recevoir. Donc, il faut qu'on ait un droit de veto de ce côté-là sur les communes. Et les élus communaux ont quand même un bon sens. Ils ne vont pas garder une classe s'il y a deux élèves.
Ce n'est pas une mesure qui est nationale, ce n'est pas une loi. Les Français ne vont pas s'exprimer sur des lois. Ils vont voter pour des mesures qui sont locales, qui sont décidées par l'Académie d'Aix-Marseille.
Ça fait partie de leur redonner le pouvoir. C'est pas l'État. L'État parisien qui décide de ce qu'on fait de la classe de Péruy, c'est pas...
Non, c'est l'Académie d'Aix-Marseille.
L'Académie,
c'est local.
Le recteur est le représentant du ministre.
Enfin, ça reste, oui, mais c'est de la décentralisation, et les représentants du ministre au niveau régional. La décision est locale.
Bah, la décision est locale, on voit très bien que quand Jean-Michel Blanquer avait dit on ne fermera pas de classe... On ne fermera pas de classe l'année prochaine. Ça a été fait. Donc, c'est bien des décisions nationales. Il applique bien des décisions nationales. Quand on lui demande de ne pas faire de classe en dessous de 25, il applique des décisions nationales. C'est pas lui qui décide la politique qui est appliquée dans l'éducation nationale.
Vous avez fait des violences conjugales une de vos priorités.
Oui.
Et vous l'avez écrit sur les réseaux sociaux. Je défendrai la création de tribunaux spéciaux, c'est-à-dire des magistrats spécialisés dans les violences conjugales qui feraient en sorte de juger en comparution immédiate, finalement, les auteurs présumés. J'aimerais aussi que vous précisiez l'une de vos propositions. L'État devra se substituer à la victime en cas de retrait de plainte. C'est-à-dire qu'une victime, demain, dépose plainte et retire sa plainte. Que fait l'État?
Alors, à l'heure actuelle, l'État, enfin le procureur, a le droit de dire la victime a retiré sa plainte, mais on poursuit quand même
l'auteur présumé.
Voilà, l'auteur présumé. Moi, ce que je souhaite, c'est que demain, l'État, systématiquement, même s'il y a retrait de plainte, le procureur prenne la main sur le dossier et poursuive la plainte. On a des victimes qui, malheureusement, retirent leur plainte pour des raisons diverses et parfois la peur de leur conjoint ou la peur de la récidive de leur conjoint. Plutôt. Et du coup, les peines ne sont pas instruites, les auteurs de ces violences ne sont pas condamnés. Et ça finit parfois, malheureusement, en drame.
On force le procès.
L'État doit se saisir de ces dossiers et faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune impunité sur les violences conjugales.
Pouvoir d'achat, que faire?
Pouvoir d'achat. Alors, moi, je me suis présenté pour la suppression d'une partie des charges sociales jusqu'à un salaire de 3 fois le SMIC, ce qui permettrait d'avoir, sur l'année, un équivalent d'un 13e mois, ça fait 8% de hausse des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC.
Oui, et cet argent qui sert quand même à financer les retraites et autres mesures sociales, on le trouve où?
Alors, cet argent, on en récupérera mécaniquement, comme ce sont des bas salaires, une partie sur la TVA, puisque ça, les bas salaires, malheureusement, n'épargnent pas et consomment, donc on en récupérera une partie. Et l'autre partie, en faisant la chasse à la fraude sociale, les fausses cartes vitales qui nous coûtent plusieurs milliards par an permettront de financer cela.
Dernier point, dernière question, la transition écologique. Très rapidement, oui. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour vivre dans un monde et dans un département un peu plus propre?
Alors, la première des choses, c'est que l'État montre l'exemple en termes de sobriété énergétique. L'État et les collectivités On ne peut pas demander aux gens de baisser la clim, d'économiser l'eau quand on a des fuites sur les réseaux d'eau qui correspondent à quasiment la moitié de l'eau pompée dans les nappes phréatiques, ou quand on a de l'éclairage public qui est très énergivore. Donc, premier point pour avoir un département plus écologique, faire en sorte que toutes les collectivités soient astreintes à de l'efficacité énergétique. Changement des ampoules pour mettre de la LED partout, chasse aux fuites d'eau de manière drastique. Et ensuite, ça veut dire aussi arrêter de subventionner les énergies qui sont plus polluantes que le nucléaire aujourd'hui pour financer tout ça. On peut pas mettre des éoliennes sur la montagne de Lure et vouloir mettre des éoliennes sur la montagne de Lure et se plaindre quand on veut mettre un pylône une station de ski. Donc on arrête de mettre des éoliennes partout, de les subventionner, sachant que l'électricité qu'elles produisent est plus chère que l'électricité que l'on consomme aujourd'hui, et pas forcément plus pertinente en termes de bilan carbone. Et cet argent-là, on le met dans la rénovation thermique de nos bâtiments pour permettre d'avoir des bâtiments de basse consommation partout.
Merci beaucoup Romaric Giacomino d'avoir été avec nous ce matin dans le 8-30, candidat Debout la France sur la première circonscription des Alpes-d'Haute-Provence donc pour ces législatives. Et je rappelle des législatives que vous pourrez suivre sur Alpe 1 ce dimanche dès 19h45. Réaction des candidats, analyse et résultats dans votre commune. Ce sera à vivre donc sur notre antenne. Merci beaucoup Romaric Giacomino.
Merci beaucoup.